Quand je commence un livre dès la première page, je fais connaissance avec des personnages. Je m'embarque avec eux dans de drôles d'aventures, passé, présent et parfois même futur. Un livre ça délivre, ça détend et ça rend ivre. Plongé dans un bouquin, ça change et ça fait du bien. Fini les galères, fini les misères. J'oublie mes soucis, j'oublie même qui je suis. Et d'un seul coup.
Bonjour à tous, ici l'Oiseau Délire, pour vous présenter notre dernière lecture et notre dernière envie. Et aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale, puisque c'est la dernière de l'année. C'est une émission coup de cœur. Donc voilà, on va faire quelques coups de cœur de... Alors, pas forcément de Noël, d'ailleurs, parce que voilà, Noël et moi, bon, y en a un, et j'ai un conte de Noël. Mais vous allez voir, ça va être génial. On va se marrer. Le premier, alors comme d'hab, on va aller par ordre croissant, pour les petits, donc à partir de 4-5 ans, on va dire, de Timothée Level, ou Leville, je ne sais pas trop comment ça se prononce, un tout nouvel auteur, Le Lièvre et les Lapins, chez Kaleidoscope. C'est un auteur qu'on a découvert l'année dernière avec son premier album Le Renard Blanc, auteur et illustrateur. Et Le Lièvre et les Lapins, c'est l'histoire de ce petit lièvre qui vit parmi sa famille de lapins. Oui, il vit avec des lapins parce qu'il les aime et tout ça. Bon, les lapins font un peu les fous le matin, ils ont des jeux bizarres, ils s'amusent à faire des toboggans entre eux, c'est-à-dire qu'ils se transforment en quelque sorte. Pour faire un immense toboggan où le lièvre court dessus, et ainsi de suite. Ils créent des formes très étranges, ils font des vagues, c'est très très bizarre. Bon, le lièvre comprend pas trop, mais il s'amuse beaucoup. La nuit, le problème, c'est quand les lapins vont se coucher, après, bah, lui, il s'ennuie un peu parce que c'est un lièvre. Mais il les aime, hein, c'est sa famille. Et un jour, il croise un autre lièvre qui lui dit, mais t'es un lièvre, c'est normal. Il fait, bah oui, mais c'est ma famille. Il fait, bah oui, c'est ta famille, mais viens, je vais te montrer comment vit un lièvre. Et là, il commence à courir dans la forêt toute la nuit, à s'amuser, à s'éclater, quoi, à faire une vie de lièvre. Parce que voilà, il est quand même un peu plus balèze que les lapins. Jusqu'au moment où, bah, le problème, quand on est un lièvre, dans une forêt, on tombe sur des loups. Eh oui, des loups. Et là, on essaye de s'enfuir, bien sûr, toujours. Sauf que les loups les rattrapent. Et au moment où on est persuadé qu'ils vont se faire croquer, si je puis dire, qui apparaît un énorme monstre, mais immense, qui fait fuir les loups, une ombre gigantesque. Les lièvres se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce monstre? Et c'était les lapins qui, comme je l'ai dit au début, s'amusent à se transformer, se faire des choses étranges entre eux. Enfin voilà, ils se gondolent, ils font des formes, et là ils ont fait la forme d'un monstre. Et du coup, depuis, les lapins et les lièvres vivent ensemble aussi, là. Et la nuit, on a deux veilleurs au-dessus du terrier de lapin. C'est les deux petits lièvres. Donc voilà, un très bel album. C'est du crayonné noir et blanc. C'est très très beau. On a vraiment cette notion de nuit. Nous, on a adoré à la librairie, j'avoue que c'est un de mes grands coups de cœur pour cette fin d'année, en tout cas. Notre deuxième, alors, c'est une pépite du Centre Montreuil. J'ai deux pépites du Centre Montreuil que j'ai adorées. Donc voilà, c'est pas du tout parce qu'elles ont eu un prix littéraire, je précise, moi ça me touche pas vraiment, comme on dit. C'est Akita et les Grizzlies dans la collection Mouche de l'École des loisirs de Caroline Solé à auteur et Gaïa Wisniewski. À chaque fois, j'arrive pas à prononcer. Hein, voilà, il y a des croqueurs de livres sur un autre titre et à chaque fois, je galère à le prononcer. Akita et les Grizzlies. Akita, c'est une petite Inuite. Et cette petite Inuite, elle fait des colères terribles. Elle fait des colères tellement fortes que ça casse les vitres, ça casse les fenêtres de son frère. Elle a 7-8 ans. Et du coup, c'est très dangereux, parce que surtout dans le Grand Nord, il fait quand même très froid. Si on commence à casser les vitres, bon, hein, vous vous doutez bien que le froid va rentrer. Et du coup, c'est le moment d'aller voir la Glouglouka. La Glouglouka, c'est une chamane qui va devoir lui apprendre à contrôler son grizzly, ce qu'ils appellent les grizzlies. Ses colères, c'est des grizzlies, parce que c'est une espèce d'énorme bête qui sort. Enfin, c'est comme ça qu'elle la visualise, en tout cas, qu'elle visualise. Et elle est très inquiète, cette petite fille, c'est normal. Une petite fille inuite qui va partir toute seule chez un chaman, quand même. C'est une vieille mamie, on a l'impression. On pourrait croire qu'elle mange des enfants au petit déjeuner, quoi. Et c'est une très belle histoire sur le fait de grandir, sur les émotions, bien sûr, les faits des émotions de la colère, de la peur. Moi, j'ai bien aimé aussi, parce qu'il y a presque un côté fantastique, on va dire. On peut le voir comme un côté fantastique avec cette gamine qui aurait en quelque sorte le pouvoir de, pas matérialiser un grizzly, mais de sortir en quelque sorte le grizzly d'elle-même et qui va rencontrer un grizzly de glace, ainsi de suite. Donc c'est une très belle histoire dans le Grand Nord. On va retourner dans le Grand Nord après, j'ai deux, trois autres histoires de Grand Nord, vous allez voir. Et c'est magnifique, c'est un très beau petit roman pour les 8-9 ans. Vraiment, une petite pépite à découvrir, c'est le cas de le dire. Une vraie pépite de l'École des loisirs. Notre conte de Noël, si je puis dire. Alors c'est de Timothée de Fombelle. illustré par Thomas Campi, que je ne connaissais pas du tout, je précise. Timothée de Fombelle, bon, bah, je ne le présente plus. Donc, c'est chez Gallimard Jeunesse, Van Gogh, Toby Lowness, et. Enfin, voilà. Voyage de perles. Enfin, bref. Timothée de Fombelle. On connaît. Donc, c'est un conte illustré. Donc, dans les nouvelles collections de chez Gallimard, ils font beaucoup ça. C'est des romans pour 10-11 ans, on va dire, à partir de 10-11 ans. Et qui sont en fait des petits romans très beaux, enfin en format broché, moyen format, c'est-à-dire que c'est pas tout à fait du poche, mais c'est du semi-poche, très grandement illustré, et toujours des très belles histoires. En tout cas, ils essayent, hein, parce que bon, après, on aime ou on n'aime pas. Et Quelqu'un m'attend derrière la neige, c'est l'histoire de ce petit voyageur, de ce petit, de cette hirondelle, qui un jour a raté le coup de, bah, le coup de la migration, quoi. Et qui va être sauvée par un petit enfant noir qui n'a qu'un bras et qui va lui donner un nom en quelque sorte, et elle va se comprendre. Enfin, il va pas que lui donner un nom, il va lui donner une présence humaine. C'est-à-dire qu'elle, qui n'avait jamais eu conscience des hommes sur Terre, qui ne voyait que des fourmis en quelque sorte, de là-haut, elle voit quelque chose. Et donc le soir de Noël, elle continue de naviguer comme ça, alors que, bon, elle n'est pas du tout au bon endroit, hein, clairement, elle est en France, là, elle est du côté de Calais. Et on va suivre aussi, en parallèle, Freddy D'Angelo. Un des derniers livreurs de glace italienne, les Gelatini, qui est donc une marque qui existe, hein, je précise. Hein. Lui, c'est le dernier livreur, il fait Londres, Italie et Londres. Donc, il passe par la France et tout ça, alors que son collègue fait l'Italie, je ne sais plus quoi. Donc, du coup, donc la Gloria, c'était ça le nom de l'hirondelle, j'étais en train de chercher. Et Freddy D'Angelo, il y a plein de neige et tout ça, il doit passer par Calais, il est très inquiet parce qu'il a beaucoup de problèmes parfois avec les migrants qui essayent de rentrer et tout ça. Et du coup, on lui dit que la livraison de Pépino à Londres était annulée, comme il s'en doutait en fait, mais bon, il suit les ordres. Et donc, il rentre, c'est un très grand solitaire, c'est-à-dire que comme il passe la journée dans son camion tout seul, livrer des glaces, et ben même chez lui, c'est très solitaire, c'est très peu décoré, on n'est pas du tout dans l'esprit de Noël, c'est clair, puisque lui, c'est un livreur, et voilà, il a toujours été très solitaire. Et au moment où il va rentrer chez lui, donc vers la fin du conte, je vous passe les beaux passages, les paysages, les descriptions de Timothée de Fombelle sont juste sublimes, il s'aperçoit qu'il a un problème, il y a une alarme qui sonne dans son camion parce qu'il a réussi à bricoler son garage pour que les glaces restent au frais, en quelque sorte, en bricolant un peu le truc, et il s'aperçoit qu'il y a une alarme qui sonne, c'est-à-dire que ces glaces ne sont plus au frais, en gros. Et il descend, et qu'est-ce qu'il voit ? Une petite hirondelle qui s'est bloquée, en quelque sorte, dans le moteur de l'aération, attirée par l'air chaud, certainement, que son garage dégage, et qui est morte. Et il va constater autre chose. Il y a quelqu'un aussi dans son camion. C'est un jeune homme, noir, s'est caché dans son camion, certainement du côté de Calais, et qui n'a qu'un bras. Et cette belle histoire d'amitié va naître grâce à cette hirondelle, qui est certainement Gloria, la petite hirondelle qui a sauvé ce petit garçon à l'époque. Et c'est la rencontre entre ce vieux solitaire, ce migrant, et cette hirondelle. C'est une très belle poésie, alors je le raconte très mal, comme vous vous en doutez, parce qu'il y a tellement plus de choses à raconter, mais j'ai tellement peu de temps pour tout vous raconter que ce serait... Voilà, c'est un peu insultant de le raconter comme ça, je trouve, mais un très grand plaisir à lire. Timothée de Fombelle nous a fait un travail magnifique. Les illustrations de Thomas Campi, que je ne connaissais pas du tout, sont sublimes. C'est chez Gallimard Jeunesse, dans une collection de contes. C'est un très beau conte de Noël, très humain, et en même temps très subtil. Donc voilà, un très beau conte à découvrir de toute urgence, par pitié. Venez vite le découvrir. Et on enchaîne avec un autre conte chez Gallimard Jeunesse, totalement différent. Alors celui-là, moi, j'ai beaucoup aimé. Alors c'est très particulier, on n'est pas du tout sur Noël. C'est dans leur collection Albums Illustrés, donc de Mario Vargas Llosa, l'auteur adulte, et illustration de Susana Selege, que je ne connaissais pas non plus. Voilà, il y a plein d'illustrateurs qu'on ne connaît pas encore. Hein. C'est magnifique, il y a toujours des nouveaux. Ça s'appelle Le Navire des Enfants. Alors ça, c'est une collection... Alors, il est assez particulier comme conte déjà de base. Et c'est dans la collection de contes illustrés, donc c'est des grands formats, c'est des albums. Donc c'est un format un peu plus album, même si ça reste du petit format au niveau album. Et c'est une histoire très particulière. C'est l'histoire de ce petit garçon. Ce petit garçon qui est de Fonfon, je crois qu'il s'appelle Fonfon, le petit garçon. Il s'appelle Fonchito, mais on va l'appeler Fonfon dans l'histoire. Qui un jour voit un vieux monsieur sur un banc devant la rivière. Qui lui dit, tu vois le bateau ? Est-ce que tu vois un bateau ? L'autre, il dit, bah non, ça va pas bien monsieur, il n'y a pas de bateau ici. Bon. Et il fait, bah, je te raconterai une histoire si tu reviens tous les matins. Et tous les matins, il va lui raconter un bout de l'histoire. Alors moi, j'aime bien ce découpage parce qu'en fait, on va avoir un découpage des chapitres très très courts. C'est pour ça qu'il est assez facile à lire pour les plus jeunes, parce que du coup, comme c'est des chapitres très très courts, puisqu'à chaque fois, on est interrompu par l'arrivée du bus. Et c'est quoi l'histoire de ce vieil homme ? qui a écrit notre prix Nobel de littérature quand même. C'est l'histoire des premières croisades au XIIe siècle, des enfants de tout coin de la France qui ont décidé un jour de libérer Jérusalem. C'est historique, hein, je veux dire, voilà. Et donc, ils vont se retrouver à Marseille pour prendre un bateau. Mais le voyage ne va pas tellement bien se passer, en fait. Ça va commencer parce que, en fait, celui qui maîtrise le compas devient fou sur le trajet. En fait, en naviguant vers la Méditerranée, le seul qui pourrait maîtriser le compas et la direction pense voir des sirènes, voit des sirènes et, a priori, va se jeter dans l'eau. Ensuite, ils vont jeter un autre marin, donc ils ne sont que 7 marins à bord, on est sur un petit rafio, et les enfants qui sont là ont 12-13 ans, donc ils ne savent pas du tout naviguer. Ils vont jeter un autre marin par-dessus bord parce qu'on pense qu'il a la lèpre. Alors, c'était peut-être pas la lèpre, mais dans le doute, ils préfèrent l'enlever, enfin le virer, c'est le cas de le dire. Et comme il n'y a pas de port, vu qu'ils sont perdus en plein milieu de la Méditerranée, s'ils sont encore en Méditerranée, ils ne savent même pas s'ils sont encore en Méditerranée. Et ce bateau va continuer de naviguer en rond pendant des jours et des jours. Et des jours. Et les derniers marins, ainsi que donc l'armateur qui avait prêté le bateau pour ses enfants pour qu'ils aillent libérer Jérusalem, s'aperçoit que les enfants ne souffrent ni de la faim, ni de la soif. Ils jeûnent et ils prient, certes, mais ils n'ont aucun symptôme de malnutrition, alors que tout le monde clairement souffre. Les autres marins souffrent énormément de la faim et de la soif, et eux, non. Et l'armateur a une idée, c'est de dire à un moment, en fait, ils vont croiser un navire anglais. Peut-être qu'ils sont sur l'océan Atlantique, ils ne savent même plus où ils sont. Et ce navire anglais, on ne les voit pas. À l'intérieur du bateau, ils ne les voient pas. Mais personne ne les voit. C'est quand le bateau, pourtant, les deux bateaux sont à côté de l'un de l'autre, et pourtant le navire anglais ne réagit pas, et personne n'arrive à leur faire entendre qu'ils sont là et qu'ils ont besoin de secours. Donc l'armateur explique que puisque les enfants ne souffrent pas de la faim et de la soif, ils doivent être protégés par Dieu, et qu'eux, ayant jeté un homme à la mer, ils doivent souffrir. Donc si ils abandonnent, eux, le bateau, les enfants pourront reprendre leur route, peut-être pour Jérusalem, Dieu les guidera. Et Dieu ne les guide pas. Ils sont toujours perdus, ils apprennent à être marins, et surtout, ils font une découverte intéressante, ces enfants, si je puis dire, c'est qu'ils découvrent qu'en fait, les humains ne les voient plus. Ils sont hors du temps. Sont-ils devenus des fantômes? Sont-ils devenus autre chose? Ils ne savent pas. Mais ils pensent que c'est lié au bateau et à eux-mêmes. Donc, ils continuent, jusqu'à un jour où ce vieil homme, aujourd'hui vieil homme, cet enfant, ce jour-là, est vaincu par le péché de curiosité et décide d'aller descendre du bateau. Et là, on le voit à nouveau. On l'aperçoit, il reste un enfant de 12 ans, mais il est sur une côte étrangère, ils ne savent pas du tout où ils sont. A priori, c'est au Brésil, je crois, qu'il débarque, ou dans ce côté-là, en tout cas. Et au moment où il se retourne pour voir le bateau, il s'aperçoit qu'il ne voit plus du tout le bateau. Il n'a aucune notion du bateau, il ne voit plus. Et du coup, il nous raconte son histoire en cherchant le bateau. Et il lui dit au jeune homme, avant de partir, il dit « Si un jour tu ne me vois plus sur ce banc, c'est peut-être que je rejoins le bateau, enfin. » Il a vécu très longtemps, ce vieil homme. C'est un magnifique conte, assez complexe, parce qu'on parle quand même de croisade, de religion et tout ça. Mais très très beau, vraiment une très belle ambiance. J'ai beaucoup aimé ce conte, cette notion de fantôme sans être fantôme. Un très beau conte intemporel, en fait. Et on enchaîne avec la deuxième pépite du salon, pépite d'or, s'il vous plaît, pour Marion Brunet, Sans foi ni loi, chez Pocket Jeunesse. Respect. Marion Brunet, que nous adorons bien sûr ici. Marion Brunet, génial. Sans foi ni loi, qu'est-ce que c'est? Un western avec une jeune femme qui envoie. On pourrait dire dans un autre champ lexical, elle est badass. Après 10 pages, elle rentre dans une ferme avec ce petit garçon, elle le menace d'un canon, elle est poursuivie par les shérifs, et par un fusil, elle lui dit, écoute, tu bouges pas. Et le gamin va quand même essayer de la vendre en quelque sorte. Elle le prend en otage pour s'enfuir et le voilà parti. Et il va découvrir tout un autre univers. Et c'est un univers qu'il va accepter avec grand plaisir, parce que déjà son père le bat. Enfin voilà, il a toute une histoire familiale qui est assez complexe. Et cette femme est différente de toutes les autres femmes. En fait, lui qui a vécu dans une ferme, il n'a aucune notion des femmes du coup. Mais cette femme est libre. Elle est sauvage, libre et clairement violente. Et c'est un super western, c'est un vrai western. On est vraiment sur un vrai western à l'ancienne. Et c'est juste un super bonheur de lire ça. C'est une série d'action. C'est une série d'action, mais avec des personnages ou en couleur et cette femme au milieu. Donc voilà, c'est un très bon livre. Ça m'a fait penser un peu à le livre d'Anne-Laure Bondou aussi, dans le même thème, avec cette femme très libre. Donc voilà, un très très bon bouquin chez Pocket Jeunesse. Pépite d'or tout à fait mérité. C'est génial. Marion Brunet, de toute façon, c'est toujours bien. Et là, elle nous fait un super truc. Thank you. Et mon coup de cœur adulte, quand même, c'est une bande dessinée de Frédéric Biel, illustrateur et bruitien, sur un scénario de Macchio, adapté de Mallory, l'appel de Tulé. En bande dessinée, donc Mallory, ce géologue et autres talents scientifiques, qui un jour est parti du côté de Tulé, donc du Grand Nord, on retourne dans le Grand Nord, comme j'avais dit, du côté des Inuits, mais encore plus haut presque. On va monter plus haut d'ailleurs. Qui tout seul, enfin tout seul, avec l'aval du gouvernement, donc dans les années 48-49, va monter là-haut pour étudier le silence des pierres, et c'est vrai que c'est un homme qui est assez étrange quand même, enfin si vous le lisez, vous comprendrez. Et donc c'est chez Delcourt, hein, bien sûr, excusez-moi, j'ai oublié de préciser l'éditeur, et on va suivre son épopée dans le Grand Nord, et dans le vrai Grand Nord froid, le Nord, hein, clairement, là on peut pas faire beaucoup mieux, de cet homme qui va sur les terres de Tulé. Et bah, c'est une claque. Moi, ça a été une vraie claque, vraiment, je vous le dis. Les illustrations de Frédéric Biel sont juste sublimes, sur une thématique qui est très complexe, je trouve, dans le sens où, finalement, comme c'est un voyage solitaire dans le Grand Nord, on est quand même sur un truc où il se passe pas grand-chose, on pourrait dire, puisque quand même cet homme navigue dans le froid, et c'est tout. Et pourtant, voilà, et pourtant, il se passe plein de choses émotionnellement, philosophiquement, psychologiquement. Waouh, c'était une vraie claque, les illustrations de Frédéric Biel sont magnifique, mais vraiment, il a rendu ce froid, cette glace de façon tellement réaliste, tellement intense, qu'on en frissonne presque en le lisant un petit peu. Et honnêtement, c'est un de mes super grands coups de cœur. C'est une BD adulte, c'est ouais, vraiment, Mallory, l'appel de Tulé, édition Delcourt, c'est sublimissime. Le scénario de Macchio, adapté donc du roman de Mallory, est super bien foutu. Enfin, ouais, tout est bien dedans, il n'y a rien à dire, en fait, il n'y a aucune critique à en faire, sauf que, waouh, voilà, on en veut plus. Donc, voilà, moi je suis complètement subjugué par ce livre, je reconnais tout à fait, volontiers même. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, un joyeux Noël du coup, puisqu'on ne se reverra pas tout de suite, on se reverra que en janvier maintenant. Une bonne fête de fin d'année, n'oubliez pas, les livres s'empruntent en médiathèque et s'achètent en librairie. À grand plaisir de vous réécouter, réentendre et surtout vous reparler de nouvelles histoires à nouveau. À bientôt.
Un livre, quand tu l'ouvres, tout ce que tu y découvres, ça paraît infini pour un truc si petit. Un livre, quand tu l'ouvres, tout ce que tu y découvres, ça paraît infini.